Il est 17h à Paris, 15h en temps universel. Et c'est l'heure du journal, présenté par Charlotte Hidrac. Bonjour Charlotte.
Bonjour Anne-Cécile Bras, bonjour à toutes et à tous. À la une, la visite des chefs de la diplomatie américaine et britannique à Kiev. Il est notamment question d'un allègement des règles d'utilisation des armes occidentales contre la Russie. Selon le président Zelensky, je cite, « la victoire de l'Ukraine dépend des États-Unis ». Les États-Unis qui commémorent aujourd'hui les attentats du 11 septembre 2001, anniversaire en présence du président Joe Biden, de Kamala Harris et de Donald Trump, au lendemain d'un débat tendu entre les deux rivaux dans la course à la présidentielle. En France, le grand absent du procès de Mazan, Dominique Pellicot, accusé d'avoir drogué sa femme pour la faire violer par d'autres hommes, de nouveau dispensé d'audience et cela bouleverse le planning du procès. Oui, la visite était très attendue par la présidence ukrainienne. Les chefs de la diplomatie américaine et britannique sont donc en ce moment à Kiev avec au programme des discussions sur la possibilité pour l'Ukraine d'utiliser des armes occidentales de longue portée pour frapper en profondeur la Russie. C'est ce que ne cesse de réclamer le président Zelensky et cela semble bien parti, Romain Le Maresquier.
C'est une visite qui pourrait bien marquer un tournant. Anthony Blinken l'a clairement annoncé ce mardi lors de son déplacement à Londres. Le secrétaire d'État américain a confirmé que son pays n'excluait pas de donner son feu vert à l'acquisition d'armes à longue portée, mais qu'il devait tout d'abord s'assurer que cela permettrait de faire progresser les objectifs que les Ukrainiens cherchent à atteindre. Accompagné par le nouveau ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, qui n'est en place que depuis deux mois, Anthony Blinken souhaite également vérifier que les forces ukrainiennes sont en mesure d'entretenir et d'utiliser certaines armes, un préalable indispensable avant un éventuel feu vert pour utiliser des armes à longue portée contre des cibles en territoire russe, comme le réclame depuis des mois Volodymyr Zelensky. Selon la presse ukrainienne, Londres ferait pression sur Washington et serait d'accord de son côté pour accorder cette autorisation, mais seulement si d'autres alliés de l'Ukraine en font de même. Joe Biden, qui doit rencontrer ce vendredi le Premier ministre britannique Keir Starmer, a confirmé réfléchir en ce moment à cette question, sachant qu'aux États-Unis, même les principaux membres républicains du Congrès plaide pour ce changement de stratégie.
Et avant même une annonce officielle, le Kremlin a prévenu, la Russie promet une réponse appropriée si l'Ukraine était autorisée à utiliser ses armes à longue portée sur son territoire. Ce conflit en Ukraine, ça a été l'un des sujets abordés hier lors du débat télévisé entre Kamala Harris et Donald Trump aux États-Unis, avec en ligne de mire bien sûr la présidentielle de novembre. La vice-présidente démocrate a poussé l'ancien président dans ses retranchements. Dans la foulée, elle a reçu un soutien de poids, celui de la chanteuse mégastar Taylor Swift. Et au lendemain de cette passe d'armes, Donald Trump refait le match. Il dit que le débat a été truqué, je cite, par la chaîne organisatrice ABC. Il promet également à Taylor Swift qu'elle paiera le prix de son soutien à Kamala Harris sur le marché des ventes musicales. Ce débat qui a été très suivi aussi en Russie, en tout cas les comptes rendus étaient à la une des médias et discutés partout à Moscou ce mercredi. Mais les autorités russes, elles, ont feint l'indifférence. Anissa El Jabri.
Premier commentaire affichant l'indifférence donnée ce mercredi matin sur Radio Sputnik par la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.
Imaginons un match entre deux boxeurs à bord du Titanic. Après le match, les gens débattent. À ton avis, lequel des deux a gagné? Mais quelle différence ça peut faire? 15 minutes après, le Titanic va de toute façon heurter l'iceberg.
Afficher son indifférence reste pourtant visiblement suffisamment important pour qu'à la mi-journée, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov enfonce le clou.
Malheureusement, nous n'avons pas pu suivre les débats car ils se déroulaient en pleine nuit à l'heure de Moscou. Mais ce matin, nous avons vu et lu les reportages. Évidemment, nous avons remarqué que les deux candidats ont mentionné notre président et notre pays. C'est clair, les États-Unis dans leur ensemble, quels que soient les candidats, maintiennent une attitude hostile et négative envers notre pays.
Deux candidats renvoyés dos à dos. Évidemment, le fond de la pensée du pouvoir n'est pas celui-là, mais à chercher, par exemple, dans ce commentaire d'un politologue diffusé à une heure de grande écoute à la télévision, les propos du candidat républicain ont, semble-t-il, résonné très agréablement aux oreilles du Kremlin.
La position de Donald Trump semblait plus constructive. Il a compris que l'opération militaire spéciale ne sortait pas de nulle part. Il a précisé que la Russie avait ses propres raisons de prendre en ultime recours des mesures extrêmes. Voyons à quoi cela ressemblera s'il devient président.
Anissa El Jabri, Moscou, RFI.
Les deux voisins sont déjà des alliés stratégiques et bien ils le seront encore plus. L'Irak et l'Iran ont signé tout à l'heure 14 accords pour renforcer encore leur coopération. Cela à l'occasion de la visite du président iranien à Bagdad, premier déplacement de Massoud Pezeshkian à l'étranger depuis son élection. On a appris il y a quelques minutes au Mali, les autorités suspendent pour 3 mois la diffusion de la chaîne française TV5 Monde. Et cela, selon la haute autorité de la communication, pour avoir, selon elle, manqué d'équilibre dans le traitement d'une information. Au Nigeria, Maïdougouri, sous les eaux, la capitale régionale du nord-est du pays, frappée par des inondations monstres, des pluies diluviennes qui ont provoqué la rupture d'un barrage. Des milliers de maisons ont été submergées et des milliers de personnes ont dû être évacuées, comme Maïna Bouala, habitant de Maïdougouri.
Vers 1h du matin, nous avons reçu un appel du gouvernement. Des gens sont venus avec des haut-parleurs et ont commencé à informer les gens que les inondations s'étaient aggravées et que nous devions évacuer nos maisons. Nous sommes donc sortis. Nous avons vu l'eau approcher notre quartier. Nous avons essayé autant que possible de détourner l'eau vers les égouts, mais nous n'arrivions pas à maîtriser le flot. Nous avons donc décidé de protéger nos vêtements et nos documents en les mettant dans des étagères en hauteur. Vers 5h ou 6h du matin, l'eau était presque chez nous après avoir inondé les maisons de nos voisins. Nous avons donc été obligés de chercher un abri ailleurs. Ce n'est pas la première fois que cela se produit. La même chose s'est produite en 94, il y a 30 ans. J'étais là, dans le même environnement. Les inondations étaient arrivées dans notre rue, mais à l'époque, l'eau atteignait nos pieds. La nuit dernière, l'eau est montée jusqu'à notre poitrine et maintenant nos maisons sont inondées.
Voilà, témoignage de cet habitant de Maïdougouri, Maïna Bouala, joint par Christina Okello. Des retards, des annulations, des passagers bloqués, trafic perturbé aujourd'hui à l'aéroport international de Nairobi au Kenya. Cela à cause d'une grève des personnels, un mouvement pour protester contre un projet du gouvernement de confier l'agrandissement du site à un groupe indien, en l'occurrence Adani, en échange d'un droit d'exploitation de 30 ans. En France, à Caen, un nouveau gouvernement la semaine prochaine, répond le nouveau Premier ministre. Michel Barnier assure qu'il y aura, bien sûr, dit-il, des représentants du parti d'Édouard Philippe dans la nouvelle équipe. À gauche, en revanche, plusieurs responsables socialistes ont indiqué que cela se ferait sans eux. Dans le sud de la France, la suite du procès de Dominique Pellicot, cet homme accusé d'avoir drogué sa femme Gisèle Pellicot pour la violer et la faire violer par des dizaines d'hommes. 8e jour d'audience ce mercredi, mais en l'absence du principal intéressé, Dominique Pellicot, malade et dispensé d'audience pour le 3e jour consécutif, ce qui chamboule tout le planning du procès, Tanita Fallet.
Par les va-et-vient des avocats de la défense, l'agitation est palpable ce matin dans la salle d'audience. Après 30 minutes d'attente, l'information tombe, Dominique Pellicot ne sera finalement pas entendu. Il a été dispensé par le président de la cour à la demande de son avocate. Une expertise médicale doit être effectuée dans l'après-midi. Une audition très attendue, une fois de plus décalée, qui bouleverse le planning du procès. C'est finalement la personnalité de Monsieur Maréchal, accusé de viol sur sa propre femme, avec la complicité de Dominique Pellicot, qui a été examiné. La lecture du rapport de l'enquête de personnalité d'abord, le témoignage des deux enfants de l'accusé ensuite, des auditions rapides sans que le principal concerné ne soit entendu. Et pour cause, c'est ensuite au tour d'une enquêtrice de personnalité de deux autres personnes d'exposer ses conclusions. Décousu, le président de la cour lui-même n'hésite pas à employer ce terme pour évoquer les débats. Traduction de la difficulté de gérer l'absence de Dominique Pellicot tout en tenant l'emploi du temps fixé. En fonction de son état de santé, Dominique Pellicot sera peut-être entendu demain. Tanita Fallet, Avignon, RFI.
Le foot, ou plutôt ses à côté financiers, cette offre de médiation de la part de la Ligue de foot professionnelle, elle a proposé à Kylian Mbappé et au PSG une mission de bons offices pour régler leur litige. Kylian Mbappé, selon son entourage, a rejeté cette médiation. Le joueur réclame à son ancien club 55 millions d'euros de salaire et primes impayées. Et puis les hommages à Didier Roustan, ce journaliste sportif amoureux du foot. Hommage dans 1 heure maintenant dans Radio Foot International. Tout de suite, vous m'en direz des nouvelles.